Mesdames et messieurs, bienvenue dans le voyage que je vous propose à travers cette émission de radio, La musique du Danube. La direction est claire, je vous invite à découvrir ensemble une terre inconnue peuplée de créatures fantastiques et d'histoires extraordinaires. Rassurez-vous, cette émission n'est pas destinée aux enfants, même si je pense qu'ils pourraient y trouver leur compte. Il s'agit de l'Europe centrale, un concept apparu au début du XXe siècle, en 1904, si ma mémoire est bonne, année de la publication de l'ouvrage « Mittel Europa » écrit par le géographe allemand Joseph Bartsch. Lorsque les politiciens et les diplomates sont entrés en scène, les choses se sont compliquées. De Metternich, également intéressé par le sujet, à Friedrich Naumann, dont l'ouvrage « Mittel Europa » paru en 1915 a consacré le sens moderne du terme, le concept désignant une zone d'Europe considérée comme centrale s'est inextricablement mêlé à la question de l'unification allemande. Au milieu du XIXe siècle, l'Europe centrale était perçue comme une union économique au sens large, centrée sur la Prusse et les territoires autrichiens, mais s'entendant de Copenhague à Trieste. Comme la forme et l'attendu territoriale d'une Allemagne unifiée restaient incertains en ce moment et qu'aucun État-nation n'avait été établi dans la région, l'avenir du centre géographique de l'Europe pouvait être envisagé de diverses manières. Ainsi, jusqu'en 1945, l'expression « Europe centrale » avait une connotation spécifiquement germanique, reflétant la domination saxonne qui s'était exercée au fil du temps. En réalité, il existe une différence considérable entre le concept d'Europe centrale en tant que terme géographique et celui d'Europe centrale en tant que terme géopolitique ou culturel. Bien que les deux soient interdépendants, un observateur extérieur aura du mal à les saisir sans approfondir ses connaissances. Le centre géographique de l'Europe a varié du XVIIIe siècle à nos jours, passant de la Pologne à la Bohême, à l'Ukraine, à la Lituanie, voire à la Belgique, ou au land allemand de S. La liste même des États composant cette région varie selon les auteurs. Milan Kundera considérait que seuls l'Autriche, la Hongrie, la Pologne, la République tchèque et la Slovaquie pouvaient être considérés comme des États d'Europe centrale. Peter Jordan, géographe autrichien, emporte le nombre à 21, entendant l'Europe centrale de l'Ukraine à l'Alsace et à la Lorraine et de la Lituanie au nord de l'Italie. Tout est donc relatif. Même le centre d'un continent pourtant très connu, avec une histoire riche, varie selon les personnes, le moment et les objectifs de la mesure. Mais c'est un autre débat qui mérite assurément d'être approfondi. Après la défaite d'Hitler, mais surtout après la division du monde par ce funeste rideau de fer, la notion d'Europe centrale perdit tout son sens et surtout les États qui s'y trouvaient devinrent invisibles aux yeux des hommes politiques et des élites occidentales. La région se transforma, comme l'écrivait le politologue américain Zbigniew Brzezinski, en un territoire situé à l'est de l'Allemagne et à l'ouest de la Russie. En réalité, elle n'était pas totalement invisible. De temps en autre, des nouvelles parvenaient sur ce qui se passait dans le camp communiste, sur les soulèvements qui avaient secoué Prague, Varsovie ou Budapest, par exemple. Mais il y avait trop peu d'intérêt pour reconstituer et faire ressurgir ce qui avait été perdu après l'agression des deux tyrannies de la première moitié du XXe siècle, nazis et communistes. Les années 80 marquent le début d'une transformation du terme « Europe centrale ». Il ne s'agit plus d'un concept géopolitique d'influence germanique, mais d'un concept culturel utilisé par des écrivains et philosophes tchèques, hongrois, polonais ou roumains pour individualiser les petites nations de la région et les dissocier de la grande famille soviétique à laquelle elle avait été intégrée de force. Comme l'écrivait Danilo Kish dans un article de 1987, la conscience d'appartenir à la culture d'Europe centrale est elle-même une désidence. L'esprit de l'Europe centrale a continué à survivre jusqu'à nos jours. Ainsi, après la chute du régime communiste dans cette zone, il a pris la forme du groupe de Visegrad formé en 1991 par la Hongrie, la Pologne, Tchécoslovaquie, devenue plus tard la République tchèque et la Slovaquie. La collaboration économique, politique et militaire était l'objectif principal de ces pays d'Europe centrale, mais il aspirait avant tout à créer une voix forte et unique au sein de l'Union européenne. On ne peut pas parler de réussite, mais il ne s'agit pas non plus d'un échec politique, même si dans un esprit typiquement centre-européen, les dissensions ethniques entre les quatre membres du groupe de Visegrad ont engendré une série de perturbations au sein de cette collaboration. En mai 2026, le premier ministre hongrois, Peter Maghiar, a relancé le débat sur le fonctionnement de ce groupe, proposant un projet de l'enrichissement à autres États comme la Roumanie, l'Autriche, la Croatie et la Slovénie. L'évolution de la situation reste incertaine, notamment dans le contexte géopolitique de l'agression russe contre l'Ukraine.
La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche. La neige faisait un tapis. Et je suivais par ce froid dimanche Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchkine boire un chocolat. La place rouge était vide. Je lui pris son bras, elle a souri. Il avait des cheveux blonds, mon guide, Nathalie. Nathalie. Et quand la chambre fut vide, tous les amis étaient partis. Je suis resté seul avec mon guide, Nathalie. Plus question de phrases sobres, ni de révolution d'octobre. On n'en était plus là. Fini le tombeau de Lénine, le chocolat de chez Pouchkine, c'était loin. Déjà que ma vie me semble vide, mais je sais qu'un jour à Paris, c'est moi qui lui servirai de guide, Nathalie. Nathalie.
Comme l'écrivait Claudio Magris dans son essai de 1946 sur le Danube, ce fleuve est l'Europe centrale germano-hongroise slave romaine juive, en opposition polémique avec le Rhin, germanique de sa source à son embouchure. Cette diversité ethnique influence profondément la civilisation et la culture qui puissent leur force dans ses eaux. Rares sont les endroits sur ces deux rives qui n'accueillent pas des spectacles, des festivals ou des concerts, car le Danube est le fleuve musical européen, par excellence, comme le chante le grand allemand poète et amoureux de la nature et de ses fluviaux, Friedrich Hölderlin, qui a dédié parmi plusieurs poésies de beaux poèmes au Danube, à la source du Danube, par exemple, et l'Ister. Il est également intéressant de noter qu'à Donaueschingen, en forêt noire, là où le Danube commence officiellement son voyage, est organisé le plus ancien festival de musique contemporaine, Donaueschingen Musikstage. Parmi les compositeurs invités à présenter ici leur œuvre, les Français occupaient une place importante. Olivier Messiaen, Pierre Schaeffer, Pierre Henry, Pierre Boulez. À l'autre extrémité, là où commence le delta de ce fleuve, la ville de Breila accueille, entre autres, deux événements dédiés à des artistes ayant marqué la scène musicale classique et le jazz. Le concours international de chant Ariclea d'Arclay et le festival international de jazz Johnny Reducanu. La soprano Ariclea d'Arclay fit ses débuts sur la scène française à la fin du XIXe siècle dans le rôle de Margherita du Faust de Charles Gounod. Remarquée immédiatement, elle acquit une notoriété extraordinaire grâce à sa voix. Elle chanta à la Scala de Milan, à l'Opéra Comique de Paris, à Nice et à Bucarest. Il est notamment intéressant de noter qu'elle fut la première à interpréter le rôle de Tosca dans l'opéra de Puccini. En 1995, la soprano Mariana Nicolescu créa le festival concours dédié à cette grande chanteuse d'opéra. En 2023, une plaque commémorative en son honneur fut dévoyée à Milano. La plaque fait partie du projet Milano et Memoria de la mairie de Milan, un signe d'appréciation de la gratitude envers cette grande chanteuse lyrique. L'histoire du Danube ne se limite pas à la musique. Si pour les Romains, ce fleuve est celui qui leur a apporté leur premier roi, Charles Ier de Hohenzollern, qui a modernisé la Roumanie et l'a placé sur la scène politique internationale, le Danube est aussi celui qui a décimé, durant les sombres années de communisme, les élites intellectuelles et les gens qui, par courage et par désespoir, ont tenté de s'évader du camp où ils étaient emprisonnés contre leur gré. L'instauration des régimes communistes en Europe centrale a marqué le début d'un long processus de transformation des mentalités et des sociétés. Le communisme fut avant tout la plus vaste et la plus longue expérience sociale que l'humanité ait connue. Les premières à en être victimes furent les intellectuels et les élites des États où il fut imposé après la fin de la Seconde Guerre mondiale et après la chute des fameux rideaux de fer qui divisaient l'Europe. Dans le cas de la Roumanie, après 1947, ce processus fut l'un des plus sanglants et des plus traumatisants. Une vague d'arrestations frappa les universités, les théâtres, la presse, les églises catholiques et gréco-catholiques. Tous ceux qui avaient la capacité de combattre raisonnablement les idées communistes ont souffert. Suivant le modèle de la Russie stalinienne, plus de 20 000 Roumains furent arrêtés dans les années 50 et envoyés en rééducation dans les camps de travail et en prison. Les accusations étaient très vagues et subjectives, de sorte que n'importe qui pouvait attirer l'attention des services de sécurité. Des paroles et des gestes de protestation contre le nouveau régime à la simple fréquentation des bibliothèques de l'Institut français ou britannique, tout pouvait servir de prétexte à la condamnation sans distinction d'âge ni de sexe. Et parce qu'un projet était nécessaire, le canal Danube-Mer Noire fut choisi. Entre 1949 et 1953, 9 chambres de travail forcé fonctionnent dans le but de le construire. C'est là qu'arrivaient des membres de partis politiques de l'époque, des légionnaires, des ecclésiastes de diverses confessions, de nombreux paysans accusés de ne pas avoir payé leurs redevances, des marchands, des industriels, des membres de la police de l'entre-deux-guerres et de nombreux gendarmes. D'anciens ministres, de préfets et secrétaires d'État y furent également envoyés. Ils furent affectés à des travaux forcés, y compris d'anciens prisonniers politiques qui, après avoir purgé leur peine, auraient dû rentrer chez eux, mais qui furent envoyés au travail forcé. C'est ça qui a déclaré Dorin Dobrincu, historien et ancien directeur des archives nationales roumaines. Âgés de 15 à 60 ans, ces hommes et femmes travaillaient jusqu'à 2 heures par jour, le plus souvent à creuser des tranchées et à transporter des pierres provenant des fuites. Ils vivaient dans des baraques, dormaient sur les pailles et souffraient de malnutrition. Pain noir, marmelade, thé, soupe aux haricots et aux pommes de terre et parfois un peu de viande constituaient le menu habituel des prisonniers du canal. Ceux qui dépassaient leur quota bénéficiaient de quelques grammes de pain supplémentaires ou de quelques cigarettes de plus par mois. Dans ces conditions, il n'est pas surprenant que le taux de mortalité ait été élevé. D'après les dons recueillis, au moins 820 décès ont été recensés, mais les cimetières et les fosses communes le long du canal sont innombrables et restent encore inconnues.
Quell, dein Aderlass, wo Trost und Leid zerfließen. Nichts Gutes liegt verborgen nass in deinen feuchten Wiesen. We'll be right back.
L'isolement de l'Europe centrale du reste du continent était quasi total. Il ne faut pas oublier le fameux mur de Berlin, manifestation la plus visible de cet isolement imposé aux nations de cette région. Le barbelé, les ont interdites, les gardes frontières qui surveillaient méticuleusement les frontières, tout cela restait pratiquement inconnu tant à l'ouest que de ceux qui étaient enfermés dans l'univers communiste. Pourtant, certains étaient prêts à tout pour obtenir leur liberté. Fuir de son pays, qu'il s'agisse d'Allemagne démocratique, de Tchécoslovaquie, de Bulgarie ou de Roumanie, était un acte extrêmement risqué, car ceux qui osaient le faire risquaient non seulement leur liberté, mais aussi leur vie. Le Danube n'était qu'un fragment de cette frontière de fer, une de ces voies d'évasion, même si c'était la plus dangereuse. Nombreux étaient ceux qui, en tentant de la traverser à la nage, risquaient de mourir de froid ou d'être emportés par ces forts courants. On ignore presque tout de leur sort, car l'organisation d'une telle évasion était soumise au plus strict secret. La moindre rumeur pouvait avoir des conséquences désastreuses, tant pour la personne concernée que pour sa famille. Un projet initié par le chercheur allemand Georg Amstritt a permis d'identifier qu'entre 1962 et 1989, environ 800 citoyens de la République démocratique d'Allemagne ont ainsi tenté de fuir vers l'ouest via la Roumanie. Près d'un tiers y ont parvenu, tandis que les deux tiers des transfuges ont échoué. Ces évasions de Roumanie ont été relatées à plusieurs reprises, notamment par l'écrivain roumain d'origine allemande Herta Müller, lauréate du prix Nobel de littérature, qui a elle-même émigré en Allemagne. Après la pauvreté, le désir de fuir était la deuxième caractéristique la plus répandue du pays. Les gens étaient littéralement désespérés de partir. Personne ne sait combien sont morts en tentant de franchir la frontière. Il y en a des milliers, mais ce sujet n'est même plus abordé en Roumanie aujourd'hui. L'évasion était devenue une obsession, a-t-elle déclaré. Ce qui est extraordinaire dans ces tentatives désespérées, c'est que nombre de ceux qui aspiraient à la liberté étaient des gens, parfois même des adolescents, qui n'avaient connu que les discours d'endoctrinement des autorités communistes. Beaucoup ne savaient pas où ils allaient. Mais cet esprit de rébellion, si caractéristique des sociétés d'Europe centrale, les poussés à prendre des risques, même au péril de leur vie. mais changeant un peu le registre de ce voyage imaginaire. Les mythes et symboles de l'Europe centrale sont nombreux et divers, compte tenu de l'histoire tumultueuse de cette région et de l'impossibilité pour les pouvoirs politiques de jeter les bases d'États ou nations forts. Les communautés ont développé un ensemble de représentations hétérogènes, fortement liées aux émotions, aux significations équivoques et hésitantes. La vie et le discours politique s'en sont ainsi profondément imprégnés. Pour mieux comprendre les petites nations d'Europe centrale, il est essentiel de maîtriser leur vocabulaire souvent irrationnel. Un occidental aura ainsi du mal à saisir ses valeurs communautaires et la nécessité de les respecter pour être accepté au sein de la communauté. La cuisine est un terreau fertile pour l'imaginaire d'Europe centrale et orientale. Chaque nation est fière de ses recettes qu'elle a adoptées et perpétuées, les transformant en traditions. Mais que faire lorsqu'un produit, considéré comme traditionnel, se trouve partout dans la région? Le fameux goulash, devenu plat national hongrois, se déguste sous des noms quasi identiques dans tous les pays d'Europe centrale. Hongrie, Italie, République tchèque, Slovaquie, Autriche, Pologne, Roumanie. Ce plat, répandu par les bergers et les soldats hongrois sur les routes commerciales reliant la plaine de Pannonie et à la Bohême et au nord de l'Italie, devenant ainsi un symbole de la cuisine hongroise et de la cuisine d'Europe centrale. Il est également intéressant de noter que la recette varie d'une région à l'autre. Ainsi, si le bœuf était utilisé à l'origine, au-delà de la Tisa, en Transylvanie, il a été remplacé par le porc. Ailleurs, c'est le mouton qui est employé. Nous avons plus de 50 recettes disséminées dans chaque communauté, portant le même nom et partageant la même saveur, celle de la plaine. Et comme ça, une unité dans la diversité, c'est ça l'image de l'Europe centrale. La musique joue un rôle important dans la construction des identités nationales. Depuis le 19e siècle, presque tous les chercheurs et les écrivains, et même les hommes politiques, se sont tournés vers la découverte des racines de leur nation, vers les traditions folkloriques. Dans la région de Maramureș, au nord de la Roumanie, entre la Hongrie et l'Ukraine, ces traditions ont été remarquablement bien préservées. Il n'est donc pas surprenant que lors des célébrations, mariages, fêtes, on entend de la musique traditionnelle de ces communautés. La première impression pour le visiteur est celle d'un vacarme assourdissant où se mêlent cris et violons. Ce style d'interprétation, appelé tsipritura, requiert des qualités vocales particulières avec une prédominance des aigus. Il n'est pas rare que les interprètes improvisent leurs paroles pour exprimer leurs sentiments et plaisanter. Je me souviens d'un ami qui disait que son oncle était le meilleur chanteur de tsipritura du village, mais qu'il oubliait tout ce qu'il avait chanté le lendemain, tant il avait abusé de la palinka. La musique traditionnelle a également été intégrée aux compositions savantes et à la musique de divertissement. Phoenix est l'un des groupes de rock qui ont marqué la scène musicale romaine des années 60 et 70. Leurs chansons s'inspiraient du folklore, même des tsipritures. En voici un exemple. Notre voyage s'achève ici. Nous avons traversé des lumières et des ombres bercées par le murmure de Danube. Il ne reste plus qu'à vous dire à la prochaine.